Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc. Pour moi, les urgences, c'est l'extrait que l'on vient d'entendre et la fameuse série américaine, les coups de sang de George Clooney, le ténébreux Dr. Ross ou encore les débuts du jeune Dr. Carter, l'interne du service. En gros, ça courait dans tous les sens, des situations toujours plus extrêmes au fil des épisodes et très peu de répit pour le spectateur et pour l'équipe médicale. En vrai, si vous fréquentez les urgences, et notamment le centre hospitalier de Fléria à Bourg-en-Bresse, vous avez peu de chances d'assister à ça. J'ai tout de même voulu en savoir un peu plus sur le fonctionnement du service. Je suis donc allée rencontrer le docteur Sébastien Roux. Sébastien Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le médecin responsable du service des urgences au centre hospitalier de Fléria à Bourg-en-Bresse. Si comme moi, les auditeurs ont suivi la série américaine Urgence, ce qui nous reste en tête, c'est des ambulances qui arrivent en trombe, du sang, toujours le même rituel, NFS, chimie, yono, et l'impression d'assister à des événements toujours plus graves. Vous regardiez, vous, cette série ou d'autres séries médicales? Et vous en pensez quoi?
Oui, moi, je les ai regardées, ces séries, et mon jeu, c'était d'essayer de trouver les diagnostics. Bon, j'en ai trouvé quand même un certain nombre, mais non, je les regardais.
Dans la vraie vie, ça se passe peut-être pas vraiment comme ça. Tout d'abord, comment on atterrit aux urgences?
Pour arriver aux urgences, en fait, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il suffit, adressé par son médecin traitant, puisque le médecin traitant estime que le patient nécessite une prise en charge aux urgences avec le plateau technique et derrière pour faire un diagnostic qui ne peut pas attendre. Ça peut être des patients qui sont adressés par le centre 15, de la même manière, qui présentent des signes de gravité certains ou potentiels, et puis des patients qui se présentent par eux-mêmes. Donc il y a plusieurs modes d'arrivée au niveau des urgences.
Oui, aujourd'hui, on peut quand même se présenter par soi-même. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de filtre quand même avec le 15, mais on peut quand même arriver, venir de manière impromptue au service des urgences.
On peut venir de manière impromptue au niveau des urgences. Après, appeler le 15, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque ça évite, par exemple, d'avoir des patients qui ne nécessitent pas forcément une prise en charge aux urgences avec le plateau technique qu'il y a derrière, qui peuvent être gérés en différé avec le médecin traitant ou alors simplement avec le médecin de garde, puisque le diagnostic suspecté, a priori, ne présente pas de signe de gravité. Donc, c'est mieux de passer par le 15.
La première personne que ces patients vont voir, c'est l'infirmier ou l'infirmière d'accueil, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle?
C'est exactement ça, oui. Alors, passe aussi par l'agent administratif, puisqu'il faut quand même qu'on puisse créer un dossier pour ensuite prendre en charge le patient, mais ça prend vraiment quelques minutes. Et ensuite, la première personne qui va effectivement les recevoir, c'est l'infirmière d'accueil. Donc on parle infirmière organisatrice de l'accueil et pas d'orientation. Et donc la mission de cette infirmière, c'est d'accueillir et d'évaluer et de procéder à un tri des patients qui arrivent aux urgences.
Donc c'est un rôle vraiment central. J'imagine qu'elle est en lien direct avec les médecins. Comment est organisé son travail?
Donc en fait, elle est dans un box dédié, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir évaluer un patient quand il arrive avec des prises de constantes. Elle possède un outil de tri aussi qui lui permet de s'aider pour l'orientation du patient et le niveau de gravité dans lequel elle va le classer. Et puis évidemment, elle est en lien systématiquement avec un médecin qu'on appelle médecin référent.
Du coup, une fois qu'elle a fait le tri des patients, comment ça se passe pour le patient et à quel moment on voit un médecin?
Alors, sur Bourg-en-Bresse, c'est un petit peu particulier, dans le sens où nous, notre infirmière d'accueil, elle est, en plus de ses outils de tri, en plus de ses outils d'orientation, elle va aussi avoir la possibilité de prescrire sur protocole et de prescrire évidemment de l'antalgie, qui se fait dans beaucoup d'endroits, des radiologies anticipées pour la traumatologie, mais aussi des bilans biologiques anticipés pour les patients qui arrivent. Donc en gros, la prise en charge du patient, elle démarre dès le début de son arrivée, la prise en charge par l'infirmière d'accueil. Et le médecin, en fait, finalement, presque idéalement, il intervient à la fin de la prise en charge. Une fois que tous les résultats sont arrivés, il voit le patient, il l'examine et en fait, il va confirmer le diagnostic avec tous les éléments qui ont été faits précédemment. Donc finalement, le fait de voir le médecin C'est un peu le critère, c'est ce que tout le monde attend aux urgences. Mais chez nous, pour la plupart des patients, il intervient en fin de chaîne.
Du coup, quelles sont les compétences pour être un bon médecin urgentiste?
S'adapter. Aimer travailler la nuit et les week-ends, ce qui n'est pas évident. Oui, non, c'est l'adaptabilité surtout. Vraiment, l'adaptabilité. On passe du coq à l'âne. Donc, c'est ouais, principalement ça.
Sur la partie plus grave des traumas que vous pourriez prendre en charge, l'infirmière est toujours là, mais pour le coup, le médecin intervient peut-être plus rapidement. Comment ça se passe?
Alors évidemment que l'infirmière d'accueil, dès qu'elle a un patient qui est grave ou qui présente des signes de gravité qui sont vraiment visualisés ou suspectés, elle va rapidement installer le patient dans ce qu'on appelle la salle d'accueil des urgences vitales. Et à ce moment-là, évidemment que l'équipe médicale avec médecins, infirmières et aides-soignants dédiés à cette salle va prendre en charge immédiatement le patient.
Pour les patients, souvent, passage aux urgences, ça veut dire longue attente. Pourquoi?
Bah parce qu'on fait plein de choses aux urgences, en fait. On fait plein de choses, en fait. Il y a déjà l'activité du service. Pourquoi on a une infirmière à l'accueil et pourquoi on trie les malades? Tout simplement parce que moi, je vais avoir 4-5 médecins par jour maximum et 170 passages. Donc, on ne peut pas tous les voir en même temps. Donc, il faut les trier. Donc, forcément, y en a qui vont attendre plus que d'autres en fonction du degré de gravité. Donc, c'est l'activité. C'est parfois quand il faut administrer certains soins, c'est ces fameux patients graves qui prennent du temps, d'autres aussi, c'est qu'on attend des résultats aussi, quand on vous fait un bilan, il y a une attente qui est incompressible, au niveau de la biologie c'est à peu près 1 heure, on attend aussi l'imagerie, parce que c'est fait avec le scanner de l'hôpital, où il y a tous les patients de l'hôpital qui passent aussi, qui ont des examens de prévu, et il faut s'adapter au niveau du temps, c'est l'intervention des avis spécialisés. Un chirurgien, quand il a le bloc opératoire, il ne va pas lâcher son bistouri pour venir donner un avis aux urgences, donc on attend qu'il ait fini son intervention. Et puis bah, c'est le manque ou l'attente de disponibilité de lit dans les services. Et surtout de l'attente de disponibilité. Typiquement, un patient qui a besoin d'être hospitalisé en service de gastro-entérologie, si le lit de gastro-entérologie se libère en fin de journée, bah, on va plutôt attendre qu'il se libère et qu'on le mette dans le bon service que de le mettre dans un mauvais service parce que le lit est disponible plus vite.
Ça fait plus de 15 ans que vous êtes médecin urgentiste, à peu près?
Oui.
Les urgences sont souvent décrites comme le parent pauvre de l'hôpital. Vous en pensez quoi?
Je ne pense que c'est pas vrai. Non, non. Non, c'est une activité qui est particulière. On est que dans un monde du non programmé. Donc on se lève le matin, on arrive, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On peut rien prévoir, on peut difficilement anticiper. Non, parent pauvre, non, non. Et puis non, au contraire, c'est une belle spécialité maintenant.
Dans certains départements, pourtant, les services des urgences sont contraints de fermer la nuit, faute de personnel ou même faute de lit hein, pour accueillir les patients. Comment ça se passe à Bourg-en-Bresse?
Sur Bourg-en-Bresse, on a vraiment une politique institutionnelle. Justement, peut-être que si on n'a pas le sentiment d'être un parent pauvre, c'est parce qu'on est pris en compte et qu'il y a une vraie collaboration entre tout le monde. Et que sur Bourg-en-Bresse, il y a une politique pour les patients, pour qu'on ait pas de lit brancard. Ces fameux lits brancards qu'on voit un peu tous les hivers et où on voit des patients qui restent 24, 48, 72 heures. Ici, ça n'arrive, pour ainsi dire, jamais. Donc on arrive à mettre les patients dans des lits qui ne sont pas toujours dans la bonne spécialité d'emblée, mais il y a une organisation pour qu'ils soient pris en charge et que ce soit fait dans des conditions de qualité et de sécurité.
Il y avait eu un petit peu de mouvement à une époque concernant les urgences psychiatriques. On en est où de cette situation ?
Les patients qui viennent pour un problème psychiatrique sont pris en charge aux urgences de Fléria avec la participation du CPA. Et ça se passe globalement bien.
Comment l'épidémie de Covid vous a-t-elle impacté et si elle vous vient impacter d'ailleurs?
Oui, elle nous a impacté. Elle nous a impacté psychologiquement déjà parce que on a découvert quelque chose qui nous a fait très peur. Qui a donné des effets pervers, parce que notamment sur la première vague, on a vu, et ça c'est au niveau national, vraiment une chute de l'activité au niveau des services d'urgence, et l'impression de vraiment faire que le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'urgence vitale. Donc on peut dire qu'on y aurait presque pris goût, et puis là on est en train de redevenir dans la vraie vie d'avant, donc c'est difficile. Mais oui, on a été impacté, mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une politique institutionnelle avec une participation de tout le monde, un investissement de tous les personnels, une adaptabilité, notamment au niveau des urgences, avec des fois des protocoles qui étaient faits plusieurs fois, refaits plusieurs fois par jour. Et tous les professionnels ont joué le jeu et en tout cas, je les en remercie.
Selon vous, est-ce qu'il faudrait changer des choses, modifier des pratiques pour que ça fonctionne encore mieux?
Oui, je pense qu'il y aurait des choses à faire, mais après, c'est des choses que je pense à titre personnel et que je garderai pour moi, mais je pense que oui, il y a des choses à faire encore.
En 15 ans de pratique, vous avez été confronté à plein plein de situations. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est quel genre de situation qui vous marque?
C'est l'humain, c'est les gens, c'est les histoires. Voilà, c'est ça. C'est des rencontres, c'est des gens qu'on a vus il y a 10 ans, qu'on revoit 10 ans après, puis qui se souviennent de nous. Ça va de plus être ça.
Sébastien Roux, je rappelle que vous êtes le responsable du service des urgences au centre hospitalier Flaria à Bourg-en-Bresse. Merci.
Merci à vous.
C'est la fin de ce numéro. Merci à vous pour votre écoute. Merci au centre hospitalier de Flaria. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi de neuf, Doc? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.